Tu me donnes le top, d'accord? C'est bon? Bon, eh bien, rebonjour à tous et merci au Mathieu et les organisateurs de la journée de me donner l'occasion de présenter les résultats d'une enquête que je suis en train de terminer, on va dire. Mon point de départ n'est pas tout à fait le même que celui précédent, même si on va voir qu'en termes de méthodologie, il y a des choses qui se recouvrent. Moi, mon interrogation, c'était d'essayer de comprendre en quoi le travail, c'est-à-dire le contenu des missions, les conditions de travail et les représentations des enseignants-chercheurs sur ce travail ont évolué au cours, disons, des 3-4 dernières décennies, avec évidemment l'hypothèse qu'il y a eu des évolutions et qu'elles sont à relier à ce que j'évoque, c'est-à-dire un certain nombre de réformes qu'on peut qualifier de néolibérales, ou on peut aussi parler de l'introduction ou du développement du nouveau management public au sein des universités. Donc voilà le point de départ, en vous précisant que je démarre cette enquête au moment où je me retire de mon activité principale, puisque je fais valoir mes droits à la retraite, comme on dit, et en devenant émérite, je peux simplement me consacrer à ce qui... J'ai adoré enseigner, mais j'ai aussi adoré faire de la recherche. Et donc, le premier résultat de mon enquête, c'est que sur les 2 années et demie qui ont suivi mon départ en retraite, j'ai eu beaucoup plus de temps pour faire du terrain et j'ai pu mener à bien à peu près 2 enquêtes, beaucoup plus de temps que dans les 15 années précédentes. Donc, en fait, il faut être à la retraite pour pouvoir faire son métier. C'est un paradoxe quand même qui est déjà, je trouve, un premier résultat, même si c'est très pointilliste comme vision. Alors, à chaque fois que je fais une présentation, j'essaye de prendre quelques titres récents. J'ai aucune difficulté à illustrer ce dont je veux parler. Hein, donc voilà, je vous laisse voir quelques évocations des évolutions les plus récentes du monde de l'université, avec à la fois la poursuite de l'excellence vantée par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Les plateformes, donc Parcoursup, maintenant mon master, j'ai pas besoin de détailler pour vous, je pense. Moi, j'ai eu la chance d'échapper à mon master, enfin, je veux dire à la plateforme, et puis les questions liées à la précarité. Alors, en vous précisant que je ne vais justement pas directement aborder les questions de précarité, puisque j'ai décidé de délimiter la population que j'étudie à celle des enseignants-chercheurs titulaires, exclusivement. Je ne néglige pas l'importance de la précarité, mais c'est un sujet un peu différent. Et je me polarise sur les questions de travail plus que sur les questions d'emploi, même si, évidemment, il y a des liens entre les deux. J'ajoute que j'ai évacué une partie du public des enseignants-chercheurs de la population étudiée, tout ce qui concerne la santé, sachant qu'on a là des spécificités vraiment assez particulières hein, sur les PUPH, et donc voilà. Je vous propose de présenter ça en 3 temps. Quelques mots sur l'enquête d'abord, quelques résultats sur le cœur de la recherche, c'est-à-dire qu'est-ce qui a évolué finalement dans le travail et les conditions de travail et la façon de percevoir ces évolutions. Et puis je proposerai 4 conclusions parmi d'autres, hein, en vous précisant aussi que certains résultats, disons plus quanti, sont pas encore tout à fait disponibles pour une raison simple, c'est que je ne suis pas capable de les travailler seul. Mes compétences étant assez limitées dans le domaine quanti, je suis en train de travailler avec un collègue qui me donne un coup de main pour essayer de voir s'il y a un certain nombre de résultats plus particuliers qu'on peut tirer, je le pense, des résultats dont je dispose. Donc, d'abord, quelques éléments de définition et de contextualisation. Je vais rien vous apprendre, mais je suis parti d'une idée que j'ai pu expérimenter, et vous aussi, j'imagine, auprès de la famille, des amis, des proches, c'est qu'en fait, on ne sait pas ce que c'est qu'un enseignant-chercheur. C'est-à-dire qu'en gros, les gens, ils vous disent « Ah bon, t'as plus cours, donc bon, voilà, t'as fait ton boulot. » Bah oui, mais non. C'est plus compliqué que ça. Alors, j'ai trouvé 2 définitions, une qui est très, très pragmatique, hein, celle de Valérie Sacrist, puisque on est ce qu'on fait. Donc là, au moins, c'est une boîte qu'on peut rentrer, remplir, mais qui, au demeurant, n'est pas forcément faux si on se demande comment évolue l'identité professionnelle des enseignants-chercheurs avec le temps. Une deuxième qui est plus précise, celle de François Vatin, hein, à savoir l'importance de la production et de la diffusion de la connaissance et du lien supposément indissociable entre les deux, c'est-à-dire comment les recherches nourrissent l'enseignement et l'enseignement nourrit ou non la recherche. La population, donc je vous le disais, hein, voilà, c'est les. Je démarre en 2020, donc grosso modo 46 000 enseignants-chercheurs, avec une répartition entre les deux corps des maîtres de conf et des professeurs des universités, où s'il est assez logique qu'en moyenne les PU soient plus âgés que les maîtres de conférence, puisque c'est une carrière qui se construit bien sûr, en revanche les écarts en termes de genre laissent penser que les inégalités, voire les discriminations, ne sont pas étrangères au monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, puisque on note quand même qu'il y a une chute, une différence très nette dans la proportion, alors qu'a priori, les PU étant à peu près tous d'anciens maîtres de conf, normalement, on devrait avoir des pourcentages à peu près identiques avec les écarts qu'on observe par ailleurs selon les trois grands domaines, hein, mais qu'on observe déjà chez les PU. Avant d'entrer dans qu'est-ce qui a changé, il faut d'abord regarder qu'est-ce qui a changé dans le travail des enseignants-chercheurs, qu'est-ce qui a changé dans le contexte. C'est-à-dire que, comme le disent souvent les économistes, on va comparer toutes choses égales par ailleurs, mais là, nous, non. On va comparer toutes choses inégales par ailleurs, et en tout cas, trois choses majeures. La première, ben, tout le monde le connaît ici, je pense, hein, mais qu'on peut rappeler, c'est l'évolution à la fois quantitative et qualitative de la population étudiante. Donc on voit une augmentation très très significative du nombre. On passe en gros de 200 000 à quasiment 3 millions aujourd'hui. Là, je me suis arrêté en 2020-21 pour prendre des écarts de 10 ans. Mais donc évidemment, on le sait tous, derrière le changement d'échelle numérique, c'est aussi des populations, des origines sociales, des rapports au savoir, à l'apprentissage, à l'université, des attentes peut-être, qui se sont transformées avec cette massification qui est liée, comme on le sait, à la massification, la démocratisation quantitative de l'enseignement secondaire intervenue dans les décennies, en particulier 60 à 80 pour le collège et plutôt 80 à 2000 pour le lycée, avec l'apparition, le développement des trois types de bacs, etc., etc. Mais donc, l'une des évolutions majeures, c'est que en étant enseignant-chercheur, on n'a plus en face de nous, aujourd'hui, les mêmes publics qu'il y a 20, 30, 40 ans, et a fortiori auparavant. Deuxième grande évolution, celle qui concerne les missions de l'enseignement supérieur et de la recherche, avec quelques éléments notables, hein, l'ajout par la loi LRU en 2007 de la mission d'orientation et d'insertion. Et quand on regarde la loi, il ne s'agit pas d'une mission d'aide à l'insertion, mais bien d'une mission d'orientation et d'insertion. Donc on aurait dû créer dans toutes les universités des BIP, hein, des bureaux d'insertion professionnelle. On a quand même eu la modestie de se limiter à des bureaux d'aide à l'insertion professionnelle. On ne voit pas bien comment une université va devenir une annexe de Pôle emploi. Mais c'est en gros, si je résume, ce qui était contenu dans la loi Pécresse. Les injonctions multiples et multipliées à la professionnalisation des cursus, et je mets volontairement des guillemets, dans la mesure où on entend beaucoup parler de la nécessité de professionnaliser, on entend beaucoup moins défini qu'est-ce qu'on entend par là. Ça veut dire quoi, professionnaliser un diplôme, une formation, un cursus? Et ça se fait comment? On va trouver des solutions plus ou moins pertinentes sur le terrain, en général. Troisième grande évolution, celle qui concerne le fonctionnement, et là encore, je mets des guillemets, la gouvernance des deux universités, c'est pas neutre le fait qu'on ait peu à peu imposé ce terme, qui vient d'abord du management de l'entreprise privée et qu'on a intégré progressivement, naturalisé, hein, et maintenant, je ne sais pas si c'est ici le cas, mais moi, dans l'université où j'ai fini ma carrière, on ne parlait plus que de la gouvernance de l'université, pas de la présidence, pas des instances, justement, de la gouvernance. Et puis, vous avez donc dans le fonctionnement, hein, quand même, si on regarde les 3-4 dernières décennies, l'introduction du LMD, le fameux 358, hein, dans le cadre de l'harmonisation européenne, le développement des crédits, transférable entre matières, entre universités, entre pays. La semestrialisation, qui a quand même profondément modifié et les modalités d'enseignement et les modalités d'évaluation et de suivi des étudiants, me semble-t-il. La mise en concurrence de plus en plus systématique des établissements entre eux, mais même des formations et des équipes à l'intérieur même des universités, et d'une certaine façon, les systèmes de plateformes qu'on évoquait tout à l'heure intègrent, entre autres choses, une concurrence. De facto, il faut attirer les meilleurs étudiants, donc proposer des cursus d'excellence. Enfin bon, je vous passe tout ce langage que vous connaissez parfaitement. L'autonomie dont vous avez parlé tout à l'heure des universités et les compétences élargies qui font aujourd'hui des présidents, des présidences d'universités, des gestionnaires de tout et de rien, en tout cas, enfin, si, pas de rien, de tout, mais de la main-d'œuvre enseignante, des administratifs, des locaux, du patrimoine, des, etc., etc. Et ici, on a les effets directs, me semble-t-il, du nouveau management public ou du new public management adapté à l'enseignement supérieur et la recherche. Donc voilà trois évolutions majeures du contexte dans lequel est organisé le travail des enseignants-chercheurs. Alors je précise rapidement hein, le questionnement de départ avec les principales questions. Donc qu'est-ce qui a changé dans le contenu même du travail? Quelles sont les évolutions des conditions d'exercice, de l'entrée à la sortie, y compris les conditions d'accès à la profession, dont on sait qu'elles se sont très fortement durcies, là aussi, avec des phénomènes de concurrence liés aux modalités de gestion. Quelles sont les représentations des enseignants-chercheurs sur ces évolutions, c'est-à-dire comment ils les analysent, comment ils les vivent, comment éventuellement ils les ont intériorisées ou pas. Qu'est-ce que ça a comme écho sur le sens donné au travail? Le sens, c'est-à-dire à la fois la signification de ce travail et la direction vers laquelle on tend quand on effectue ce travail. Et bien sûr, comment on peut analyser ces évolutions que je vais donc essayer de retracer avec l'enquête. Cette enquête, donc je ne vais pas m'étendre, hein, mais un peu comme vous l'avez fait, mais à une échelle nationale, j'ai d'abord constitué un questionnaire en ligne avec l'objectif de cibler le plus largement possible les différentes disciplines, les différents établissements, universités, mais aussi les composantes particuliers comme les IUT ou les SP, mais aussi les établissements d'enseignement supérieur hors de l'université. Et donc, pour y arriver, j'ai procédé de la façon suivante, interroger systématiquement l'ensemble des collègues siégeant dans toutes les sections du CNU, puisque c'était un moyen d'avoir des adresses mail à peu près valables, et qui couvrent justement tous les domaines, avec un biais que j'admets, c'est que, a priori, les gens qui siègent au CNU sont des gens un peu plus investis, ou en tout cas ponctuellement, dans, disons, la gestion collective de la profession, un peu plus indiqués que la moyenne, quoique, quand on y regarde de près, finalement, tous les gens qui siègent au CNU ne sont pas forcément syndiqués. Hein. Et puis, la deuxième solution que j'ai adoptée, c'est de tirer au sort un certain nombre d'établissements. Alors, un sort que j'ai un tout petit peu... comment dirais-je, avec lequel j'ai un peu joué et aidé, voilà, le problème c'était de tomber sur des établissements dans lesquels il y avait suffisamment d'adresses mail visibles pour contacter les enseignants-chercheurs des 10 établissements, hein. Des 10, pas des 10, hein, des 10 établissements. Donc il s'agissait à la fois d'être en Ile-de-France, dans des grandes villes et puis dans des plus petites villes, parce qu'on peut supposer que les conditions d'exercice, notamment, ne sont pas forcément les mêmes dans les grands établissements d'Île-de-France, typiquement, et ce qu'on peut trouver dans des établissements ou des lieux plus petits. Donc ça, c'était le premier temps. Et donc, je dispose de 683 questionnaires totalement remplis, parce que j'en ai un certain nombre d'autres avec des collègues qui se sont... fatigué avant la fin, et c'est vrai que c'était assez long à remplir, hein. C'était minimum une demi-heure pour le remplir intégralement, sachant que dedans, il y avait à la fois des questions ouvertes, mais des questions fermées, mais pas mal de questions ouvertes pour pouvoir laisser quand même la place à l'expression. Je visais principalement des collègues ayant 10, 15 ans d'ancienneté ou plus, pour qu'ils aient un certain recul, ce qui explique le biais en termes d'âge. Mais comme je demandais aux collègues qui acceptaient de, enfin qui recevaient mon mail de le diffuser auprès de leurs collègues, en leur demandant de cibler prioritairement des gens ayant 10 ou 15 ans, mais dans les mailles du filet, il y en a quelques-uns plus jeunes qui se sont glissés. Mais à l'usage, je m'aperçois que même dans les plus jeunes, il y a des gens qui n'ont que quelques années d'expérience comme enseignants-chercheurs, mais ils ont souvent été forcément doctorants, souvent moniteurs, ATER, etc. Ce qui fait que finalement, leur vision de l'enseignement supérieur a beaucoup plus d'années de recul que les quelques, peut-être, 2, 3, 4, 5 ans qu'ils ont d'exercice professionnel purement, en poste, je veux dire. Donc voilà, vous avez une représentation à peu près. Hein. Alors mon objectif n'est pas, je ne prétends évidemment pas à une représentativité statistique, c'est juste pas possible en faisant ce travail un peu artisanal. En revanche, un échantillon qualitatif qui représente quand même assez bien, me semble-t-il, et les disciplines, et les âges, et les genres, et les types d'établissements. Et puis la dernière question du questionnaire était de savoir si la personne répondant serait prête à poursuivre avec un entretien, cette fois-ci semi-directif en tête-à-tête, et dans ce cas de me donner un numéro de téléphone ou une adresse mail, étant entendu que ça m'empêcherait pas de respecter l'anonymat, même si évidemment avec une adresse mail je sais qui m'a répondu, mais vous le saurez pas. Et donc le deuxième temps, c'était donc de procéder à ces entretiens. Là, les entretiens semi-directifs étaient minimum trois quarts d'heure et les plus longs ont duré jusqu'à une heure et demie. Hein. Et donc, voilà, j'ai 110 entretiens à peu près tous retranscrits à l'heure qu'il est, auxquels j'ai ajouté des interviewés un peu particuliers et sélectionnés, c'est-à-dire des représentants de chacune des organisations syndicales. Donc, j'ai 9 entretiens soit individuel, soit collectif, puisque certaines organisations syndicales ont souhaité me répondre en binôme, hein, ce qui, moi, me dérangeait évidemment pas du tout. Et j'ai également interrogé 5 présidents et vice-présidents en poste, et là aussi, je vous dirai pas où. Mais l'idée, c'était d'avoir des interlocuteurs qui soient dans des positions un peu différentes, même s'il est convenu dans la profession que nos présidents et vice-présidents sont encore des enseignants-chercheurs, mais ils sont aussi beaucoup devenus des gestionnaires, voire des politiques. Mais bon, ça, je n'anticipe pas. Alors, voilà pour la description. Hein. Et puis, il y a un troisième temps et un dernier temps dont vous faites partie, qui consiste pour moi à présenter mes résultats à des équipes, qu'elles soient syndicales, que ce soit des séminaires de labo ou des équipes dans des UFR. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, ça doit être la 7e ou 8e présentation que je fais. Alors, je l'adapte, hein, c'est pas un magnétophone, hein, rassurez-vous. Mais les questions, les remarques qui viennent pendant les présentations ou même après, donc n'hésitez pas à me contacter ensuite. Je suis très preneur parce que ça alimente aussi le travail d'interprétation qui est jamais terminé, mais que j'essaye de mener à bien en ce moment. Alors, qu'est-ce qui a évolué dans le contenu et les conditions de travail? Je vais essayer de lister les éléments les plus importants qui ressortent du questionnaire et des entretiens et qui m'amènent finalement à me demander, en référence à la citation de Valéry Sacriste, « Ils sont ce qu'ils font », qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui cette profession? Alors, ce qui apparaît massivement évident, c'est une augmentation du travail réalisé en nombre de tâches, et donc en diversité de tâches différentes, en temps consacré à ces activités professionnelles, et en charge mentale, notamment liée aux éléments précédents, c'est-à-dire que la charge mentale, elle est d'autant plus importante, me semble-t-il, que précisément on passe, et dans parfois des laps de temps très resserrés, d'une tâche à une autre, d'une activité à une autre, d'une urgence à une autre. Ça, c'est un élément qui revient de façon très très massive Je n'ai pas souvenir dans les entretiens d'un seul collègue qui m'ait dit non, non, là, moi maintenant, maintenant je possède bien mon métier, comme on peut l'entendre chez certains professionnels, et en gros, voilà, je gère, ça, j'y arrive, quoi. On est plutôt sur le sentiment que c'est du toujours plus, quoi, hein, ce qui renvoie un peu à ce que vous évoquiez tout à l'heure. Plus de 80% des répondants mettent en avant l'alourdissement des tâches administratives. Alors, derrière, on ne met pas forcément toujours tous la même chose. Et c'est là où, dans les entretiens, on peut aller regarder qu'est-ce qu'on entend par tâche administrative. Et je pense qu'il y a à la fois des éléments qui relèveraient d'une forme d'ingénierie pédagogique ou d'organisation de l'enseignement, qui prend la forme de plus en plus de tâches administratives parallèles aux activités proprement dites d'enseignement, c'est-à-dire de conception d'un cours, de présentation d'un cours, d'évaluation des étudiants, de retour des étudiants, etc. Hein? Il y a les tâches administratives liées cette fois-ci à la recherche. Alors, pour certains collègues, ils mettent derrière tâches administratives la course après les budgets. Pour d'autres, ils le voient un peu différemment, hein. Mais la gestion des appels à projet et des réponses à projet fait évidemment partie des musts qui reviennent assez systématiquement. Et puis, il y a d'autres tâches administratives, notamment, et c'est là où indirectement on touche à la question de la précarité, c'est-à-dire que le fait de devoir recruter, gérer, suivre, veiller à ce qu'ils soient payés, des contractuels, des vacataires, etc. C'est aussi des tâches administratives, même si ce n'est pas que de l'administration, mais c'en est aussi. Et donc tout ça, évidemment, est une des traductions, une des concrétisations de la ligne précédente, hein. Troisième élément qui ressort massivement, c'est une inflation des demandes de remontée de données statistiques à travers des tableaux, en général des tableaux Excel, mais ça peut être d'autres formulations ou des tableaux ad hoc, hein, inventés par telle ou telle université ou regroupement d'universités, et où là, il y a le sentiment qu'on est de plus en plus soumis à devoir remonter des données avant, pendant, après. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on prévoit, qu'est-ce qu'on fait, quels sont les résultats, quels sont les bilans, et plusieurs collègues me disent, à certains moments, on a franchement le sentiment de remplir des fichiers, des tableurs que personne ne lira. Et il n'est pas certain qu'ils aient tort. Une inflation des procédures, c'est-à-dire qu'il y a une procédurisation du métier, qu'il s'agisse de s'occuper d'avoir un billet de train pour aller présenter une communication, ou de demander un budget. Alors moi, j'ai le souvenir... C'est un de mes derniers souvenirs de directeur de labo, d'avoir passé 2 semaines de négociations au moment du confinement pour obtenir que l'université paye une cartouche d'encre aux collègues. Alors j'ai eu droit à simplement une cartouche d'encre noire et uniquement pour les titulaires. Sachant que il s'agissait, précisons bien, hein, d'utiliser le budget du labo qui était donc déjà disponible. Et qui ne pouvait pas servir à faire des voyages notamment, puisque de toute façon, on était confinés. Et donc, c'est des plaidoiries multiples pour démontrer que oui, à partir du moment où on travaille à domicile, oui, on est amené à imprimer des choses, et qu'il n'y a pas de raison particulière pour que les collègues l'impriment avec leur encre qu'ils vont s'acheter. Mais ça a été, je vous assure, une bataille homérique, parce que il y a des procédures, il y a des règles. Ah mais non, mais il n'est pas prévu, puisque vous avez des imprimantes à disposition, il n'est pas prévu de financer des cartouches d'encre. Ben oui, mais quand on est confiné, on va pas déclencher l'imprimante à l'université. Bon voilà, c'est un exemple parmi bien d'autres. Et puis la réunionite qui devient, et le collègue tout à l'heure disait, en plus c'est des réunions dans lesquelles en général rien ne se décide, puisque ça a déjà été décidé ailleurs. Et souvent c'est des chambres d'enregistrement, mais dans lesquels il y a des montagnes, enfin des temps infinis qui sont passés, et où les collègues souvent me disent, en même temps, c'est difficile de pas y aller parce qu'il y a toujours un moment où il y a une info intéressante, où il y a un moment où il faut qu'on dise quelque chose. Alors je me souviens d'une collègue qui me disait, ce serait intéressant de comptabiliser le coût en salaire représenté par des réunions dans lesquelles il y a tout un tas de représentants. Alors vous avez les UFR, les départements, les unités de recherche, les commissions de ceci, les groupes de travail de cela, et où, au nom de l'efficience, puisque c'est ça, hein, il faut bien utiliser les fonds publics, au nom de l'efficience, on est en train de monter des usines à gaz qui coûtent, en dehors de tout le reste, allez, je vais le dire, un pognon de dingue, parce que je ne résiste pas à la formule, mais Quelle est la logique au bout d'un moment? Je pense qu'il y a une bureaucratisation, alors pas au sens de Weber, c'est-à-dire d'une organisation rationnelle, mais au sens d'une bureaucratie qui a besoin de justifier son existence et qui le fait notamment en multipliant ces fameuses réunions, temps pendant lequel, j'allais dire, on ne fait pas autre chose, mais en fait, si, parce que tout le monde regarde en même temps ses mails. J'ai deux collègues qui m'ont raconté que, alors je crois que c'est elles dans les deux cas, elles assistaient simultanément à deux réunions, donc avec une en ligne là devant et l'autre avec une oreillette qui suivait une autre réunion, et selon le moment, enfin, des, bon, voilà, je passe, mais ça illustre, alors on peut dire que c'est des cas limites, c'est vrai. Mais je pense que ça illustre quelque chose de l'évolution dont on parle. Alors, un alourdissement des responsabilités pédagogiques et administratives, c'est-à-dire que je crois que sur les 783 réponses, il n'y a que 80 collègues qui répondent n'avoir jamais exercé aucune responsabilité, soit de diplôme, soit de cursus, soit de structure. Et ce qui est frappant, c'est qu'il me semble, donc ça veut dire qu'il y a tellement de multiplication de structures et de procédures que ça se traduit par une multiplication de responsabilités des uns et des autres, mais ça veut dire aussi que c'est de plus en plus tôt que des collègues qui démarrent leur carrière se retrouvent propulsés à la responsabilité. Alors souvent c'est de la licence, ça tombe bien, il y a à gérer Parcoursup avec quelques milliers de dossiers, mais les autres l'ayant fait avant, ben, on passe le bébé au dernier arrivant, hein. Heureusement, la loi prévoit que la première année, on ne peut pas donner une responsabilité de ce type-là à un maître de conférence, mais la deuxième année, en général, ça commence à être chaud déjà. Enfin, je ne sais pas si c'est une expérience que vous avez partagée, mais donc c'est assez frappant, et en même temps, avec une capacité de décision relativement limitée, pour ne pas dire très limitée, c'est-à-dire que c'est aussi une espèce de faux-semblant de démocratie universitaire, me semble-t-il. Et là, ça renvoie à ce que vous évoquiez tout à l'heure. Alors, je suis pas sûr que avant c'était forcément mieux. Je pense qu'il faut se méfier de ça, hein. Mais en tout cas, là, on a des choses qui pèsent sur la vie quotidienne au travail. L'autre grand élément, évidemment, vous l'avez évoqué tout à l'heure dans votre questionnaire, hein, c'est la chronophagie des activités numériques. Alors, il y a ce que j'évoquais tout à l'heure, répondre à des datas. Mais il y a aussi la réponse au mail qui devient un travail en tant que tel. Et là, ça me rappelle beaucoup ce que les collègues de mon labo qui ont travaillé sur les cadres du privé racontent. C'est-à-dire que ils arrivent au bureau et commencent par passer 2 heures à trier les mails, déjà à trier avant de savoir lesquels on va lire et lesquels on va traiter. Et c'est quelque chose qui est devenu une réalité de la vie des enseignants-chercheurs. Y compris dans la relation avec les étudiants, ce qui en soi est plutôt une bonne chose. Bon, c'est vrai qu'au moment où les mails sont arrivés et où j'ai pu donner une adresse mail aux étudiants pour pouvoir échanger, ça semblait et c'était plutôt sympa de pouvoir avoir un échange plus rapide, moins formel, mais ça devient un truc totalement chronophage et parfois pas très utile et parfois source de conflits. Parce que quand il commence à y avoir des accords ou des objets de débat, la réponse instantanée au mail, ça tue le débat, quoi. Et ça fait monter des acrimonies, des rancunes qui va être très difficile ensuite, me semble-t-il, de réparer. Évidemment, la période du confinement a singulièrement intensifié cette question-là avec la question du téléenseignement, dont je ne sais pas quel est l'avenir. Mais qui semble très intéresser un certain nombre de personnes travaillant, notamment au niveau ministériel. L'aggravation des conditions d'encadrement des étudiants, c'est-à-dire concrètement les taux. Alors là, les résultats sont un peu plus diversifiés, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a quand même des écarts sensibles, déjà selon qu'on s'occupe plutôt des licences ou plutôt des masters. Évidemment, les collègues qui sont majoritairement investis en licence sont beaucoup plus confrontés à des taux d'encadrement dégradés. Alors peut-être que ce qu'on est en train de vivre avec mon master fait que on va avoir le même problème pour les responsables de master, c'est bien possible. Ces conditions d'encadrement, elles sont également aggravées par un autre phénomène qui est la réduction des équipes d'appui au niveau des départements et des UFR. Et donc, un des résultats qui apparaît, et d'autres collègues l'avaient repéré déjà, hein, c'est qu'il y a à la fois une atrophie au niveau des équipes présidentielles, d'une multiplication de personnel, de cadres, souvent en contrat de droit privé d'ailleurs, n'ayant qu'une connaissance lointaine, voire aucune connaissance du monde universitaire, alors qu'au niveau, disons, de la base, hein, des UFR, des départements, on a au contraire un rétrécissement des équipes d'appui et des personnels d'appui des BIATS, qui non seulement sont moins nombreux, mais restent là moins longtemps, sont moins bien formés, et comme ils sont souvent pas titularisés, ben, dès qu'ils peuvent, ils partent, ce qui, de leur point de vue, est tout à fait légitime, et que de toute façon, avant la sixième année, on fait partir pour être sûr de ne pas être obligé de les titulariser. Mais ça veut dire que les mémoires que constituaient ces personnes, qui étaient des personnes ressources, enfin moi je l'ai vécu quand je suis arrivé sur mon dernier poste à l'université d'Evry, heureusement qu'il y avait la secrétaire qui s'occupait du master et secrétaire de scolarité qui s'occupait du master depuis 20 ans, et c'est évidemment elle qui était la ressource clé, surtout quand vous arrivez et que vous connaissez pas et la maison et les étudiants et le CFA, etc. Et ça, c'est des choses qui se perdent et qui retombent donc de fait sur les enseignants-chercheurs ou une partie d'entre eux. Alors, comme ce qui m'a rassuré, c'est qu'il y a quand même quelques réponses plutôt positives, donc je n'ai pas affaire qu'à un panel de râleurs et de personnes pensant que tout est noir. Hein. Donc globalement, il y a plutôt le sentiment que les conditions matérielles de travail se sont améliorées, que ce soit les locaux, les équipements, voilà. Donc il y a des éléments d'amélioration, alors tant mieux, hein. Est-ce que c'est pour faire plus facilement passer le reste, ne tombons pas dans la théorie du complot. L'autre élément qui est souvent souligné comme positif par les collègues, aussi bien dans le questionnaire qu'en entretien, c'est l'évolution des sujets de recherche et le fait, disent-ils, que c'est souvent à leur initiative, ce qui est un peu contre-intuitif et contradictoire avec d'autres réponses, la soumission aux appels à projets, etc. Alors, est-ce qu'il y a une intériorisation ou est-ce que quand même c'est une forme d'autonomie qui se maintient ou de résistance qui existe dans l'idée qu'on peut quand même encore relativement choisir ses objets de recherche? J'ajoute que là, et je vous le disais, j'ai pas de résultats quanti vraiment précis à vous donner, mais on sent bien des différences entre les disciplines, et notamment, ça c'est beaucoup plus vrai en SHS que dans les autres domaines, et notamment qu'en sciences et techniques. Intuitivement, c'est l'impression que j'ai. Je veux le vérifier avec un travail, je vous l'ai dit, qui est en cours de réalisation. Alors, on repasse en noir, hein, désolé, après. Donc, il y a évidemment les pressions croissantes des tutelles, voire des collègues, pour obtenir des contrats et des budgets avec la baisse des budgets récurrents. C'est un peu contradictoire. Mais il y a quand même l'idée que, voilà, quand j'interrogeais les collègues en leur disant est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, il y a quand même l'idée que les appels à projets, je choisis ceux auxquels je réponds. Donc il y a quand même une marge de manœuvre, plus ou moins limitée, hein, mais qui existe néanmoins. Mais je me souviens de ce collègue qui disait maintenant, moi je suis plus un chercheur, je suis un chercheur de budget. C'est-à-dire qu'on passe plus de temps à aller chercher, à décrocher des contrats, à répondre à des appels à projets, alors ANR, européen, enfin je vous en passe le détail que vous connaissez, là aussi avec des variations évidemment très importantes selon les disciplines, c'est-à-dire que là où en SHS on est content si on a un contrat de 10 ou 20 000 euros, il y a des gens pour qui c'est des contrats où on parle en millions d'euros, et donc le travail de recherche et de décrochage de ces contrats est bien plus complexe, me semble-t-il encore, que ce que l'on peut vivre, nous, en SHS. Pression croissante également, très largement ressentie, sur la publication. Alors, il y a l'histoire, combien de publications, combien de revues cotées, combien de publications en anglais, dans un certain nombre de disciplines. Il y a aussi, dans un certain nombre de disciplines, la question de l'ordre de signature, qui devient aussi un enjeu très important, notamment pour les jeunes collègues, pour s'affirmer dans un champ. Bon, autant d'éléments qui ne favorisent pas forcément un esprit coopératif absolu. Hein. C'est un euphémisme, je crois, de dire cela. Je poursuis. L'encadrement des thèses, donc pour les maîtres de conf HDR et pour les professeurs des universités, ce qui ressort très nettement, c'est l'accroissement des normes. Là aussi, une procédurisation au niveau des écoles doctorales, Même si pas mal de collègues ont plutôt un avis favorable sur la création, par exemple, des comités de suivi qui permettent de limiter peut-être le lien unique entre un doctorant et son directeur ou sa directrice de thèse et qui parfois peuvent poser des problèmes. Mais globalement, l'entrée en thèse, la poursuite au-delà de 3 ans, notamment dans les disciplines où, comme en SHS, on ne voit pas bien comment on peut faire un vrai travail de terrain et boucler une enquête en 3 ans. Donc généralement, 4-5 ans, on y arrive. Au-delà, ça tend à devenir probablement de plus en plus compliqué et il est probable que ça s'aggrave dans les temps à venir. En tout cas, c'est possible. Et du coup, ce qui est assez net, c'est un recul assez largement ressenti de la satisfaction au travail, puisque l'une des questions, enfin les deux questions que je posais, c'était de citer des éléments. Enfin, d'abord, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir plus, moins ou autant de satisfaction maintenant qu'au début de votre carrière? Et là, le recul est la réponse majoritaire, même si c'est pas la seule. Hein, et il y avait aussi de demander aux collègues, donc ça je vous présenterai pas ça en détail, hein, mais d'expliquer, de donner quelques exemples d'éléments qui les ont satisfaits, qui sont des raisons, des motifs de satisfaction dans leur vie professionnelle et évidemment en parallèle des motifs d'insatisfaction. Et donc on va retrouver souvent les éléments au-dessus, mais illustrés par un certain nombre d'exemples qui sont très parlants. Hein. Alors ça a été évoqué tout à l'heure, hein. Autant la reconnaissance, puisque j'interrogeais les collègues sur la reconnaissance par les autres enseignants-chercheurs, par les étudiants et par l'institution au sens large du terme, en précisant à la fois les directions du FR, d'université et la tutelle. Et là, ce qui est très frappant, c'est que autant la reconnaissance par les pairs et la reconnaissance par les étudiants est relativement jugée plutôt bonne, hein, autant la reconnaissance par l'institution est très largement jugée comme simplement inexistante. Voilà. C'est vraiment la réponse qui ressort très majoritairement et avec des exemples de ce que ça implique comme ressenti par les collègues interrogés. Je vais y revenir. Une des questions, c'était est-ce que vous avez le sentiment qu'au fur et à mesure du déroulement de votre carrière, vous avez vécu un enrichissement ou un appauvrissement des tâches que vous réalisez? Et là, je vais vous montrer que il y a des écarts qui sont assez significatifs selon le statut. C'est-à-dire que maître de conférence, maître de conf HDR et professeur des universités, on repère des différences assez marquantes. Alors, pour entrer un tout petit peu dans le détail, voilà, j'avais essayé de lister à partir de l'ensemble des réponses tout ce qu'on peut trouver sur ce que j'évoquais au point de départ, c'est-à-dire la multiplication et la diversification des tâches. Et donc là, si on s'en tient à l'enseignement, voilà, on a une liste d'éléments qui viennent complexifier ce travail avec une double dimension, c'est-à-dire qu'à la fois, ce qui ressort, c'est combien les collègues trouvent intéressant la possibilité d'effectuer une palette large. Donc, il va y avoir un paradoxe ici. On n'est pas sur des gens nostalgiques d'avant où on venait faire un cours, enfin l'image d'Épinal. C'est pas ça le propos. Mais c'est le sentiment que on n'arrive plus à faire rentrer tout ça dans son temps de travail, tout simplement. Et que ça crée à la fois de la surcharge matérielle, de la surcharge cognitive et de la surcharge mentale. Et c'est là où je pense que les questions de souffrance au travail, de stress, voire de burn-out, j'ai quelques réponses et dans les entretiens, j'ai quelques exemples assez frappants et douloureux, hein, de situations de ce type-là. De même, sur les activités de recherche, voilà les quelques éléments qu'on peut voir mis en avant, hein. Donc les éléments liés à la concurrence, la chasse aux moyens financiers, la course aux publications, les multiples évaluations auxquelles il faut maintenant se préparer en faisant des pré-évaluations. Hein, donc quand on vous annonce qu'il va y avoir l'HCERS pendant l'année qui précède, en fait, ça devient un objet de travail essentiel. Et donc, c'est après, bon, personne ne conteste la nécessité d'être évalué et la justification du principe de l'évaluation est a priori par les pairs, mais ça devient là aussi une charge de travail et aussi une charge mentale, parce que derrière il y a évidemment les enjeux en termes de est-ce qu'on aura encore les diplômes, est-ce qu'on aura encore les unités de recherche, est-ce qu'on aura encore les budgets. Les activités, alors j'avais spécifié ces trucs-là, notamment quand j'avais présenté ça à un labo de management pour leur montrer qu'ils étaient concernés. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'un enseignant-chercheur, il est chargé maintenant de sélectionner, recruter, manager des étudiants, des doctorants, des athères, des collègues, les nouveaux collègues, j'entends, des vacataires, sans compter les administratifs qui passent et qui ne restent pas, et à qui donc il faut apporter finalement l'information pour qu'elles puissent, je dis elles parce que c'est majoritairement des personnels féminins, hein, donc, à la limite, quand on est sociologue ou gestionnaire ou en management, on peut penser qu'on sait à peu près faire. Mais dans la majorité des disciplines, un maître de conférence en philo, en maths ou en informatique, quelle que soit sa discipline, c'est pas son métier, quoi. En tout cas, c'est pas là-dessus qu'il a été formé ni recruté. J'ai entendu, vous avez peut-être vu une enquête qui vient de sortir cette semaine, qui dit que 80% des enseignants se forment eux-mêmes. C'est une enquête qui est parue cette semaine. Alors je suis pas sûr que ça prenait en compte les enseignants du supérieur. Mais enfin, quand on regarde les tâches qu'il s'agit de remplir, comment on apprend à faire ça autrement que par de l'auto-formation, éventuellement parfois auprès de collègues un peu plus expérimentés qui vont transmettre les trucs, voilà. Et donc avec une intériorisation qu'il faut faire tout ça. Parce que sinon... Effectivement, on passe à côté du service rendu aux étudiants, du fait que l'université fonctionne, et il faut bien qu'elle fonctionne. Alors, je vous le disais, sur appauvrissement, enrichissement ou stabilité de la qualité des tâches, vous voyez que il y a quand même des écarts assez significatifs. Alors, évidemment, on peut aussi penser que quand on est professeur des universités, on a un peu plus d'ancienneté, donc on a un peu plus la capacité à trier. Moi, je suis pas tout à fait sûr que ce soit ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'idée que la reconnaissance institutionnelle qui a permis de passer HDR puis professeur des universités fait qu'on accepte plus facilement et que donc on a une vision plus positive de l'évolution? Je sais pas. Bon, alors après, je suis pas psychologue et je veux pas entrer dans des considérations trop psychologisantes, mais il y a sans doute des choses de ce type-là. Et quand on rentre, alors là, je vais pas pouvoir le faire dans le détail, hein, on s'aperçoit que sur certains éléments, c'est les maîtres de conférences HDR qui ont les plus gros objets d'insatisfaction ou de souffrance. Alors, est-ce que c'est lié au fait qu'ils sont HDR et qu'ils n'arrivent pas à passer professeur des universités, qui expliquerait qu'à certains moments l'insatisfaction prenne le dessus? C'est une hypothèse que je n'écarte pas.
Un retrait, c'est quoi?
C'est les quelques retraités.
Ah!
Vous voyez combien on est capable d'embellir le passé une fois qu'on a retiré ses billes. Donc je vous souhaite d'arriver le plus vite. Non, je veux faire. C'est une bêtise. Alors. Voilà, je vous mets sans les commenter, hein, quand même quelques verbatims. Alors moi, le terme qui me paraît le plus représentatif, c'est celui d'une profession qui vit un malaise, voilà, et qui parfois se traduit et va jusqu'à des souffrances. Mais j'ai vraiment le sentiment, alors tout à l'heure dans votre enquête, vous parliez de mal-être. Bon, il me semble que le mot malaise, après, on va pas avoir une discussion sur les mots, hein, mais je pense que c'est très très parlant et très révélateur. D'un monde professionnel et on voit que la question du temps, mais derrière la question du temps, c'est évidemment la question de la multiplicité des tâches, de la surcharge, ce que j'évoquais précédemment, hein, qui est mise en avant. Alors ce n'est qu'un florilège et je n'ai pas choisi les plus négatifs, hein. C'est vraiment assez représentatif de l'échantillon des réponses. Alors, ça amène à s'interroger sur un élément que j'évoquais tout à l'heure, c'est le sens que nous donnons à notre travail et que les autres donne ou pas à notre travail, qui est vraiment un élément en question, à la fois sur la reconnaissance sociale, sur le caractère de plus en plus utilitariste de la recherche, sur, vous voyez, derrière le trop technique, le trop compartimenté, on retrouve aussi la question des procédures que j'évoquais tout à l'heure, la perte de sens du service public, ça a été évoqué dans la discussion que vous avez eue tout à l'heure. Et en même temps, comme dirait quelqu'un de désormais célèbre, ce qui est très frappant, c'est le paradoxe central, c'est quand même que l'immense majorité des répondants sont heureux, enfin, font un travail qu'ils aiment. Et sont heureux de faire ce travail, et sont le malaise, à mon avis, profond, vient de la contradiction entre l'amour d'un métier, globalement, hein, c'est un peu simplificateur, et le sentiment de ne plus pouvoir travailler correctement, de ne plus pouvoir traiter les étudiants comme on devrait le faire, de ne plus pouvoir faire sa recherche comme on pense qu'on devrait pouvoir la faire. C'est-à-dire que, alors, Yves Clos parle de travail empêché, moi je parlerais plutôt de qualité de travail empêché. Vraiment, je pense que c'est au cœur du malaise que j'évoquais et des interrogations sur à quoi on sert aujourd'hui. Et c'est ça, au fond, un des éléments au centre de cette question du sens du travail. Alors, pour ne pas abuser de votre temps, je cours aux conclusions. Première conclusion, il y a un lien évident à faire, me semble-t-il, alors évidemment j'entre dans l'interprétation, hein, entre tout ce qu'on vient de voir et la managérialisation de l'enseignement supérieur liée à ce nouveau management public. Alors, avec des éléments qui me semblent devoir être soulignés, c'est le poids croissant d'un travail caché, invisible et invisibilisé, et de façon, me semble-t-il, maintenant assez délibérée par les tutelles. C'est-à-dire que le fait qu'on ne sait pas ou quoi, non, je pense que on n'est plus dans cette époque-là. Je pense qu'il y a quelque chose de délibéré à faire endosser un ensemble de tâches au-delà de ce pourquoi au départ on pensait être là, et qu'évidemment la numérisation, qui est un outil en tant que tel formidable si on l'utilise correctement, devient un moyen d'accroître ce travail caché, et la précarisation des uns permet d'accroître le travail caché des autres. Alors je fais référence à quatre auteurs ici, quatre approches théoriques, hein. Je pense que la surcharge mentale et cognitive, on peut la lier à ce que Nicolas Aubert appelait le culte de l'urgence, hein, et elle distinguait deux sortes d'urgences dans son bouquin. Elle disait qu'il y a des urgences objectives, c'est-à-dire qu'il y a un incendie, il est urgent d'évacuer l'immeuble, il n'y a pas à discuter. Et puis il y a tout ce qu'à un moment donné, on décide et on classe comme urgent, ce qu'elle appelle des urgences subjectives. Et on est dans un moment et une institution où tout devient urgent et où à chaque fois, ou bien souvent, la dernière tâche devient l'urgence. Et où il faut passer de ça à ça parce que c'est urgent. Et on ne peut pas travailler correctement dans une urgence permanente. L'accélération permanente dont parle Hartmut Rosa, hein, il parle d'accélération technique mais aussi d'accélération sociale, et je pense qu'on est en plein là-dedans. Le passage récurrent de tâche d'une tâche à une autre, Marie Pesé, qui a beaucoup travaillé sur la question de la souffrance mentale au travail, hein, je pense qu'on a ça. Et puis, bon, j'évoquais Yves Clos, même si on peut discuter de ce qu'il fait une fois qu'il est sur le terrain, je pense qu'il a mis le doigt sur des vraies questions, hein. Deuxième élément clé, deuxième conclusion, on assiste à une instrumentalisation de l'enseignement supérieur et de la recherche, et des deux, l'enseignement au nom de l'insertion des diplômés, la recherche au nom d'une recherche qui doit être utile, hein, au monde économique, sous-entendu en fait l'entreprise, hein, en oubliant qu'en France 20% des gens ne travaillent pas dans le privé, mais bon. Et ça contribue à détériorer la qualité du travail et les modalités de réalisation. C'est-à-dire que voilà, il faut professionnaliser l'enseignement, il faut transmettre des compétences il faut réécrire tout, vous y êtes passé j'imagine, hein, tous les diplômes en compétences pour qu'on puisse classer ça dans le répertoire national de la certification professionnelle. On est dans une logique adéquationniste, c'est-à-dire quels sont les emplois disponibles demain, et on pense que bah, si on fait rentrer les gens en formation dans les bons tuyaux, à la sortie, ils iront dans les emplois correspondants. Alors même que toutes les études montrent depuis au moins 40 ans que ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas un débat idéologique, c'est pragmatique. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que l'anticipation que ce sera quoi les emplois dans 10 ans, ou même dans 5 ans, et on écrit une maquette de diplôme pour 4-5 ans, les étudiants entrent en licence avec 5 ans devant eux, s'ils vont en master, c'est pas vrai qu'on est capable de savoir ce que seront les emplois dans 5 ans. Or, il faudrait les préparer à un emploi en plus de proximité, puisqu'on va regarder dans les bassins d'emploi. Dans le même temps où la dernière loi sur la formation professionnelle s'appelle la loi... évidemment, ça m'échappe au moment où je suis en train de vous le dire, mais je vais le retrouver, pour la liberté de choisir son avenir professionnel. D'accord ? Et donc, si un étudiant qui entre en licence n'a pas le choix de son avenir professionnel... C'est quand même quelque chose qui interroge, hein, me semble-t-il. La recherche donc doit être rentable. Donc en SHS, c'est les publications valorisées. Dans d'autres disciplines, ce sont les brevets. Hein. Et c'est ça qu'il faut viser. Et c'est là-dessus de plus en plus qu'on va trouver des budgets et même être correctement évalué. Et donc, il faut... aller vers une efficience, hein, c'est les termes de la gestion qui sont directement importés dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Troisième conclusion, et là qui est plus complexe à traiter, on en vient un peu à ce que vous évoquiez dans la discussion juste avant que j'intervienne, c'est que la majorité des collègues que j'interroge sont dans cette contradiction, c'est qu'en fait ils font fonctionner, ils appliquent des règles et ils font vivre des règles que fondamentalement ils réprouvent. Alors pas tous, hein. Il y a des gens qui sont très à l'aise et qui apprécient beaucoup les évolutions en cause actuelles. Hein. Évidemment, c'est pas très bizarre qu'on les retrouve souvent dans les équipes présidentielles qui vont mettre en œuvre. Mais il faut quand même pas perdre de vue qu'une partie de nos collègues sont tout à fait en phase avec cette évolution. Mais le malaise, me semble-t-il, l'un des ressorts du malaise, c'est que quand même beaucoup de gens s'interrogent sur ce que devient le sens, le service public d'enseignement et de recherche, et le pensent mis à mal, et appliquent des choses dont ils pensent qu'ils contribuent à le mettre à mal. Donc, c'est très déstabilisant de faire vivre des institutions et un fonctionnement que contre lequel, finalement, on est. Et en même temps, il faut bien que l'université fonctionne. Il faut bien que les étudiants aient leurs cours et leurs diplômes. Et donc, on est pris dans cet entre-deux, hein, très, très dégradant, me semble-t-il, pour la santé mentale. Enfin, je vais jeter une pierre dans votre jardin, mais ça... Je crois que ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure, mais peut-être à une échelle un peu plus large. Le sentiment que j'ai, c'est qu'en effet, on a essentiellement des réponses individuelles dans un milieu qui est tout de même relativement individualiste de culture et de tradition, me semble-t-il. Chacun construit sa carrière, ses objets de recherche, même s'il y a du travail collectif. Et bon, voilà. Alors, il y a ceux qui sont dans la course, et soit parce qu'ils pensent que c'est comme ça que leur carrière va évoluer, soit parce qu'ils adhèrent au nouveau système, et après tout, eux, ben, ils n'en souffrent pas. Hein. Il y a des situations de repli, et on voit bien qu'au-delà de 50, 55 ans, il y a un certain nombre de collègues qui disent « Bon, ben, maintenant, je me retire de tous ces jeux-là institutionnels, je fais mes cours, j'essaye de faire mes recherches comme je peux, de publier un peu, et puis le reste, ma foi, voilà, j'ai déjà donné. » quoi. Hein. C'est quand même un truc qui revient. Et puis, y a le déni de l'évolution en cours. Et puis, il y a des souffrances qui se manifestent soit physiquement, soit mentalement, soit les deux, hein, le stress, le burn-out, les arrêts maladie, mais souvent en silence. C'est compliqué de faire état de ces choses-là, quand les collectifs de travail, en plus, peinent à vivre. Et puis, il y a les départs... Alors, le résultat que je n'ai pas et que j'aimerais bien avoir, mais que je n'arrive pas à avoir, c'est combien il y a de démissions dans l'enseignement supérieur à la recherche. Moi, je connais deux collègues qui sont partis. Il y en a un qui a fait perdre une partie de ses cheveux à son DRH puisqu'il lui a fait opérer une rupture conventionnelle. Et la personne a dit, mais ça n'existe pas dans le public. Ah bon, mais si, regardez la loi. La loi n'a jamais prévu que la rupture conventionnelle était limitée au privé. Donc, il a mis mal à l'aise son DRH. Mais ça ne l'a pas forcément attristé. Mais donc, voilà ça. Et une collègue que je connais aussi qui a dit, bon, ben moi, j'ai terminé, je retourne enseigner dans le secondaire. Je me débrouillerai pour faire mes recherches à côté. Mais les chiffres, on n'arrive pas à les trouver. Enfin, moi, j'arrive pas à les trouver. Ça a l'air d'être... Mais si on regarde ce qui se passe dans le primaire et dans le secondaire, des démissions, des mises en disponibilité, dans certaines disciplines, des gens qui vont faire de l'audit ou créer leur boîte privée en parallèle et puis qui s'en sortiront comme ça. Alors, dans l'informatique, dans le management, on voit ça. Hein. Alors, il me semble que le fameux triptyque d'Albert Hirschman, hein, loyauté, prise de parole, exit, voire négligence, pourrait servir un peu de grille de lecture. La prise de parole, la voice, c'est plutôt ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire c'est plutôt collectif, hein, en général, même si à un moment donné, quand on est là depuis longtemps, qu'on a un poste, on peut l'ouvrir un peu, mais bon, ça soulage sur le moment de râler. Ça règle pas totalement. Et puis, les réponses syndicales, c'est vrai que moi, le résultat que j'ai, c'est quand même l'impression qu'il n'y a pas vraiment de réponse syndicale à cette situation-là, et y compris les représentants des organisations syndicales que j'ai interrogées. On est quand même beaucoup plus dans la déploration ou la dénonciation que dans les solutions, et je jette la pierre à personne parce que c'est pas simple de trouver les solutions, mais elles sont compliquées face à quelque chose qui ressemble à un rouleau compresseur qui est relativement bien pensé, me semble-t-il, et je pense que les urgences récurrentes qui font qu'on a sans arrêt la tête dans le guidon, ça fait aussi partie d'un mode de gestion, de gouvernance, comme ils disent, parce que pendant ce temps-là, on applique, et qu'on n'a pas le temps, finalement, et encore moins collectivement qu'individuellement, de trouver ou de penser une alternative. Je crois que je vais m'arrêter là. Hein. Alors, je vais peut-être pas vous le laisser, mais si ça vous intéresse, je transmettrai quelques éléments qui permettent... Je n'ai pas travaillé que avec ma petite tête, hein, voilà. Je vous rassure.
Merci, bravo.